Fréquence Terre.
Nous sommes toujours en direct de Paris, Parc des Expositions, au Salon Planète Durable. Nous parlions tout à l'heure avec Eva Pométan, que nous recevions sur ce plateau, d'entreprises responsables, d'entreprises citoyennes. Elle nous expliquait un petit peu ce que c'était que la mise en place d'une gouvernance holacratique. Nous allons rentrer dans le vif du sujet tout de suite sur ce plateau, animé par Cyril Souche de cdurable.info et de Anne Guéquière de Féminin Bio, qui féminin-bio.com. Je vais me faire gronder si je dis pas .com. Donc on va rentrer dans le vif du sujet des entreprises citoyennes, des entreprises qui jouent le jeu à fond, qui ont mis un autre système de gouvernance, de concertation au sein de leurs entreprises. Mireille Liseau, responsable du service communication du groupe Léa Nature, et avec nous aussi Eric Allaudy, directeur général de Intégral Vision, Alter Stratégie, intelligence collective, gouvernance holacratique, éco-innovation cradle to cradle. Alors que des mots barbares que nous allons découvrir et vulgariser avec Fréquence Terre.
Oui, bonjour Mireille Liseau, bonjour Eric Allaudy.
Bonjour.
Bonjour Anne, merci de nous rejoindre. C'est très intéressant de pouvoir avoir sur un même plateau à la fois une entreprise pionnière, Léa Nature, qu'on connaît mal mais que vous allez nous aider à mieux connaître, qui est même un groupe d'entreprises avec plusieurs marques et plusieurs activités, et qui prouve par la réalité de son activité que les valeurs et l'efficacité peuvent être conciliées au quotidien, et un consultant qui est vraiment à la pointe, si j'ai bien compris ce que nous a dit Emmanuel Pometan, mais qui va pouvoir nous le dire encore mieux, à la pointe des outils qui permettent aux entreprises de prendre conscience de ces nouvelles valeurs, d'intégrer ces mouvements et de pouvoir les intégrer à la perspective, à la stratégie de leur entreprise. Peut-être, honneur aux dames, Mireille Liseau, nous présenter brièvement un peu l'historique de cette entreprise familiale que peu de gens connaissent dans son intégralité, mais dont on a peut-être une connaissance à travers un produit ou une marque que l'on connaît mieux.
Bonjour et merci. Donc, Léa Nature est une entreprise qui existe maintenant depuis 18 ans. Donc, ça y est, on a atteint notre majorité. C'est une entreprise qui a démarré initialement en 93, donc en région parisienne. Dès 96, son patron, donc Charles Kloboukoff, son créateur, a décidé de donner plus d'ampleur et surtout un environnement plus naturel pour son expansion. Et donc, s'est installé à La Rochelle à partir de 96. Et en 99, on a construit notre siège social à 6 km de La Rochelle, donc dans un environnement qui convenait tout à fait au développement de produits naturels et biologiques, qui sont l'essence même de Léa Nature, puisque maintenant, aujourd'hui, d'experts des plantes dans les produits compléments alimentaires santé, on est devenu l'expert des produits biologiques dans quatre domaines: la santé, l'alimentation, la cosmétique et maintenant la maison également, avec des produits d'entretien écologique.
Alors on va revenir en détail sur toutes ces activités et la manière dont on peut intégrer ces valeurs dans les différents secteurs d'activité, dans les différents produits qu'on trouve en magasin. J'aimerais, parce qu'on s'intéresse beaucoup, nous, aux valeurs et à ces personnes un peu atypiques, on parle d'un fondateur atypique, vous avez parlé de Charles Kloboukoff, qui est à l'origine de cette entreprise, des valeurs. Vous-même, Mireille Liseau, comment vous avez connu le groupe Léa Nature? Qu'est-ce qui vous a séduit dans ce groupe et quel a été votre rôle et quel est votre rôle aujourd'hui?
Ce qui m'a séduit avant tout, c'est l'homme. Et d'ailleurs, j'avais moi une expérience en communication, surtout en agence. Et c'est la première fois que je me suis aperçue que j'avais envie de travailler pour un homme, un projet. C'était pas une entreprise, un produit, c'était un homme. Et ça a changé complètement ma vision des choses et ma façon de travailler. Et quand on croit dans le projet d'un homme, qui est porté par un homme, c'est vraiment ce qui est le plus fort et ce qui motive le plus.
Alors qu'est-ce qui vous a séduit justement, Anne? Tu interviens quand tu veux. Hein.
Oui, bien sûr.
Alors ce qui m'a séduit, c'est qu'il avait déjà une vision, alors que son entreprise était toute petite, on était 12, moi, quand je suis arrivée. Il avait déjà une longueur d'avance, une vision d'avance sur son souci d'apporter du bien-être, son souci que l'homme doit déjà avant tout prendre soin de lui pour être mieux avec lui-même, mais mieux aussi avec les autres, mieux dans son travail, donc avec des compléments alimentaires naturels. pour développer des produits dénués de toute substance chimique, de tout produit de synthèse, etc., pour avoir une meilleure biodisponibilité entre le produit et l'organisme humain. Et puis, de surtout essayer de démocratiser ces produits naturels pour le plus grand nombre. Donc, je trouvais que le projet, dès le départ, était nouveau, ambitieux, et puis correspondait à mes attentes, puisque ça participait quand même d'un mouvement d'offrir du bien-être. Voilà, tout simplement.
Éric Elodie, ça vous parle en situation de crise? Je disais dans votre documentation en préparant cette émission, la tentation du repli sur soi est grande. Vous êtes partisan du contraire. Est-ce qu'il est encore possible d'avoir ce type de valeur ou de développer ce type de valeur au sein d'une entreprise dans une situation telle qu'on la vit actuellement?
Oui, je pense que absolument. Je pense que ça dépend complètement de la relation qu'on a à la vie en tant qu'individu et en tant qu'entreprise. On est confronté aujourd'hui effectivement à un mur qui se rapproche de plus en plus de nous. Donc la question, c'est de savoir en fait, est-ce qu'on veut juste, de manière fataliste, accepter l'imminence de ce mur-là? Et donc effectivement, la seule tentation qui reste, c'est le repli sur soi, une espèce de contraction d'égoïsme individuel et collectif en fait pour survivre. Et dans ce genre de situation générale, c'est toujours les nantis qui s'en sortent le mieux. Donc, où est-ce qu'on veut au contraire en fait chercher et trouver des solutions alternatives qui nous permettent en fait de changer de direction? Et il y a beaucoup à dire en fait là-dessus. En fait, on parle beaucoup de changement de paradigme. On parle beaucoup en fait de changement de niveau de conscience et de perspective. Et nous, chez Intégrale Vision, en fait, on a toujours cette phrase en tête d'Einstein qui dit qu'on ne peut pas résoudre un problème de la dimension d'où le problème a émergé, mais qu'il faut au contraire changer de dimension, avoir une perspective plus haute. Et du coup, ce qui apparaîtra comme du bon sens dans cette perspective plus haute apparaîtra comme du génie en fait au niveau de conscience inférieure. Donc on travaille beaucoup chez Intégrale Vision à aider nos clients à développer une perspective, un niveau de conscience plus élevé, qui pour nous est la véritable solution. Parce que du coup, à partir de cette perspective-là et ce contexte-là, on peut littéralement trouver des solutions différentes, et c'est ce qu'on s'emploie en fait à déployer auprès de nos clients à travers ce qu'on appelle des solutions alternatives au niveau de leurs produits, au niveau de leur culture, au niveau des individus eux-mêmes.
Donc Léa Nature est, sans être votre client, un exemple que c'est possible. C'est-à-dire qu'on peut avoir une autre vision des choses, travailler dans le monde d'entrepreneurial, de la distribution de produits, donc fortement concurrentiel, avec des pressions, tout en conservant ses valeurs et en ayant de beaux résultats, une belle activité, puisque le groupe Léa Nature se porte plutôt bien, je crois. Vous étiez 12 au départ, vous êtes combien aujourd'hui?
On est 610 aujourd'hui, et c'est un groupe qui réalise environ 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et tout au début aussi, une petite anecdote, quand je suis arrivée, une des choses les plus importantes que Charles Kloboukov voulait mettre en place, c'est avant tout privilégier une harmonie professionnelle et personnelle. Et quand on est jeune chef d'entreprise, qu'on a à peine 30 ans, qu'on développe son entreprise, et que déjà on accepte que des femmes ou des hommes, mais la plupart du temps des femmes, travaillent à temps partiel en ayant des postes à responsabilité, c'était déjà un pari.
Oui, chapeau.
Oui. C'est vrai que, enfin, moi, pour connaître un petit peu Charles également, qui, comme vous, Mireille, est un homme effectivement fascinant et certainement, et j'espère, précurseur. Est-ce qu'il est précurseur, justement, d'une nouvelle génération de dirigeants, à votre avis?
Moi, à mon avis, oui, il est tout à fait précurseur parce que, justement, il a ce besoin d'apporter autre chose et de faire retrouver une autre place de l'entreprise dans la société. L'entreprise n'est pas là que pour faire du profit, du business, mais l'entreprise doit aussi apporter quelque chose à la société, à ses salariés. C'est un échange gagnant-gagnant, et c'est pas tout le monde, c'est pas tous les chefs d'entreprise
qui ont cette vision.
Oui.
Mais c'est vrai, quand on va chez vous à La Rochelle, on est vraiment, on se sent dans l'économie humaine. On est vraiment dans une entreprise où il y a des corbeilles de fruits. Enfin, vous pouvez nous décrire un petit peu tous les avantages, parce que ça, c'est pas banal. Enfin, on a envie de se dire, on a envie d'aller y bosser finalement.
Oui, oui. Alors c'est vrai que c'est des petits détails, mais c'est des petits détails qui font le bien-être de tous les jours. Et par exemple, il y a 45 à 50 kilos de fruits bio, j'insiste,
bien sûr,
tout, qui sont distribués par jour et qui disparaissent.
De saison, j'imagine.
Oui, des fruits de saison. Et donc on se fait livrer ces fruits et qui arrivent tous les jours, offerts par la direction pour l'ensemble des salariés. Il y a aussi plein de petits patios extérieurs végétalisés pour apporter la lumière naturelle et aussi des espaces verts. Il y a un petit jardin de plantes médicinales et aromatiques. Il y a des repas bio qui sont aussi offerts par l'entreprise tous les deux mois, qui doivent être organisés par un des services afin d'impliquer tout le monde. C'est un service qui invite l'ensemble de l'entreprise, c'est pris en charge par l'entreprise. Et là, c'est dans le but de favoriser à la fois la connaissance des gens entre les services et la convivialité, parce qu'on a un groupe qui grandit, mais l'important, c'est surtout de ne pas perdre nos valeurs, les valeurs de départ. Et quand on est 12 au début et 600 aujourd'hui, c'est aussi difficile à maintenir. Et donc, très rapidement aussi, il a décidé, ça aussi, c'était totalement nouveau et innovant, déjà depuis 2000, de créer un comité éthique, qui est un peu un comité des sages, un garde-fou, justement pour essayer de veiller à conserver et véhiculer et faire adhérer aux valeurs de l'entreprise.
Ça fait rêver, mais en même temps, on ne rêve pas parce que c'est une réalité, ça existe, ça se développe, ça marche même très bien. On va rentrer un peu dans le concret des choses. Le groupe Léa Nature, c'est un groupe donc avec différentes activités. Vous en avez cité au moins quatre. Donc il y a l'alimentation, la cosmétique, la santé, la diététique. Il y en a même une cinquième, toute nouvelle, le textile.
Oui, le textile avec les produits d'entretien écologique.
Alors dites-nous un peu tout ce voilà. que fait ou fabrique Léa Alors, Nature, pour qu'on voit que c'est concret. Ce n'est pas qu'un rêve de belles valeurs.
Non, qui parlait des marques, effectivement.
Oui, donc la plus grande marque, c'est Jardin Bio, qui est une marque d'alimentation biologique dans l'épicerie bio et équitable, et bio français également. Et ça représente 50% du chiffre d'affaires du groupe Léa Nature. Ensuite,
on la retrouve en grande et moyenne surface, c'est
oui,
ça hein.
C'est ça, voilà. Ensuite, Sobio, éthique, qui est une gamme de cosmétiques bio en grande et moyenne surface également, avec Florescence, qui représente 30% du chiffre d'affaires du groupe. Ensuite, la santé au naturel, donc c'est les compléments alimentaires naturels avec la diététique, naturelle qui évolue aussi vers des produits diététiques et bio, c'est 18%. Et après, on a un petit 2% des deux récents métiers dans l'entreprise, donc qui sont le textile en coton bio et équitable et les produits d'entretien écologique certifiés EcoCert.
Alors, on va revenir aussi sur tout ce que vous faites au niveau de chacun des produits, parce qu'il y a un vrai travail. Et j'aimerais avoir l'avis d'Éric Alaudi, parce que sur les produits, vous êtes un de ceux qui participent à démocratiser un peu la notion de cradle to cradle, c'est-à-dire sortir du berceau à la tombe, qui est notre situation actuelle, pour essayer de rentrer dans un cercle vertueux de non-déchets. Expliquez-nous un peu, justement, cette vie du produit, comment ça se passe aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'améliorer?
Alors, d'abord, avant d'expliquer ce cercle vertueux, je voudrais juste exprimer le fait que c'est d'abord une philosophie en soi. C'est-à-dire qu'on peut se voir en tant qu'espèce humaine, comme une espèce qui pollue, dont les activités en fait sont source de nuisances pour la planète et pour les hommes. Ou on peut se voir au contraire comme une espèce humaine avec ses activités, comme source en fait de solutions, source de dépollution et de purification. Déjà, c'est une première manière de penser, une première posture, un premier contexte en fait, qui est nécessaire pour pouvoir déployer ce qu'on appelle le cradle to cradle, qui en anglais veut dire du berceau au berceau, comme vous l'avez signalé. Mais ça, c'est le contexte...
Du berceau à la tombe ou du berceau au berceau?
Non, du berceau au berceau, le cradle to cradle, du berceau au berceau par opposition à notre manière habituelle de fonctionner. Dans ce qu'on appelle aujourd'hui le développement durable, on se contente finalement de minimiser notre empreinte, de diminuer, finalement, de se faire tout petit en tant qu'espèce humaine en fait, et en tant que producteur, même en tant que consommateur, quand on pense aux déchets. Donc l'idée, c'est non pas d'être moins mauvais, mais de devenir bon.
C'est un changement de conscience aussi, dont nous parlait Manuel tout à l'heure.
Absolument, c'est un changement de paradigme. C'est de se dire, en fait, il est possible, maintenant, avec les techniques dont on dispose, avec un peu d'innovation et surtout beaucoup, en fait, de nouvelles perspectives, de fabriquer des produits qui, dès le départ, sont conçus pour être non toxiques et indéfiniment recyclables.
Vous sentez, vous, justement, on en parlait avec l'invité précédent, Jean-Marc Governatori, on parlait de cette bascule des consciences. Vous la sentez, vous, concrètement, justement, ce changement de paradigme, hein, où ça reste, on reste un peu entre nous, dans notre milieu. Parfois, on a l'impression de tourner autour de notre propre cible.
Entre convaincus.
Non, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a différents niveaux de conscience, en fait. Donc, de quelle évolution on parle ? Si on regarde les pays scandinaves, par exemple, ou la Californie, des régions comme celle-ci, les gens se sentent déjà là-bas comme des citoyens de la planète, avant de se sentir californien, américain, danois, suédois ou hollandais.
Moi, j'ai ressenti ça en Nouvelle-Zélande, par exemple. Il n'y a pas besoin de politiser l'écologie. Les gens sont écolos berceau à la tombe.
donc ça veut dire que ça fait partie de manière inhérente de leurs valeurs, de leurs perspectives, de leur niveau de conscience, en fait. En France, on est à peine en train d'y arriver. d'y rentrer. C'est ce qu'on appelle un niveau de conscience écologique postmoderne. Ce sont des termes sociologiques qui sont utilisés. Ça fait à peu près, j'irais, 3-4 ans que c'est vraiment en train de rentrer dans la culture. Et c'est pas étonnant que, avec des entreprises comme La Nature ou d'autres, en fait, soient développées aussi rapidement, parce qu'effectivement, il y a un pourcentage de consommateurs qui sont en fait intéressés par ça. C'est un pourcentage très faible. Aujourd'hui, c'est à peu près 10% des consommateurs, mais ils représentent en volume 40% en fait.
J'avais 17%, 10%, vous avez juste pour citer de la source
Ça, c'est les sources en fait des derniers sondages. C'est-à-dire on ne parle pas 17% de créatifs culturels, on parle 10% là de consommateurs. C'est-à-dire c'est des études consommation qui mesurent effectivement, qui ont mis en catégorie en fait de tous les consommateurs.
C'est les chiffres de l'agence bio ou pas
non,
forcément.
Non, c'est les chiffres en fait, les derniers sondages qui ont été faits, je vous donnerai les sources. Donc c'est 10% des consommateurs qui représentent 40% de la consommation. Donc ce qui est intéressant, bio et verte. Ça veut dire qu'en fait on a besoin juste d'une minorité significative de personnes pour pouvoir en fait commencer à faire basculer une culture au niveau de ses valeurs. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que ce niveau de conscience est en train d'émerger en France, mais d'abord parce qu'il existe déjà dans d'autres pays et aussi parce qu'il y a cette minorité qui est en train d'exister, les choses peuvent rapidement en fait s'accélérer. Donc oui, effectivement, il y a un frémissement qui se sent avec des valeurs plus grandes, avec où on se voit davantage comme un citoyen de la planète, où on parle beaucoup plus de bien-être, beaucoup moins de réussite, en tout cas la notion de réussite en fait devient commence à intégrer en fait un cadre personnel, un cadre de bien-être en fait et des valeurs plus grandes.
La Nature, vous avez très directement vécu la progression de ces clients qui achètent bio, puisque vous avez dépassé les 100 millions d'euros.
Oui. En fait, on s'est aperçu que quand on commence à consommer bio, on ne revient jamais en arrière. Donc, c'est tout simple, c'est tout bête, mais c'est une prise de conscience et... On le fait soit pour soi, pour sa santé, soit pour ses enfants, à partir du premier enfant, ou soit vraiment pour un véritable engagement environnemental.
Et ça veut dire qu'on élargit, c'est-à-dire qu'on découvre les produits bio pour l'alimentation, et on passe aux produits bio cosmétiques, et aux produits bio d'entretien, de santé, etc.
Quand on commence à consommer bio, on commence à faire attention à ce qu'on ingère, ce qu'il y a dedans, on commence à lire les étiquettes, et puis finalement, on se dit, qu'est-ce que je mets aussi sur ma peau? Est-ce qu'il ne faut pas que je fasse attention également? Quand on sait que les femmes qui se mettent du rouge à lèvres mangent un tube de rouge à lèvres par an. Donc, quand on sait ce qu'il y a comme produit issu de la pétrochimie dans un rouge à lèvres, on commence à réfléchir. On se dit, je préférerais peut-être mieux qu'il soit bio.
Donc, on change de conscience, comme disait Eric Alodi. Voilà. Et le travail commence à se faire. Et cette masse critique, vous l'évaluez? Enfin, elle progresse? On approche? Est-ce qu'on a des chances de faire basculer un peu ces tendances de consommation, aller au hard discount, au moins cher?
Oui, ça rejoint un peu la question que j'allais vous poser sur cette... Vous parliez d'accélération de cette bascule. Vous voyez ça à quelle échéance? Ça rejoint effectivement la question de Cyril.
Je suis pas devin, mais ce que disait Mireille est parfaitement vrai. C'est-à-dire qu'en général, quand on a découvert de nouvelles valeurs plus hautes, en fait, on ne revient pas en arrière, en général.
C'est ça la bonne nouvelle.
C'est ça la bonne nouvelle. Et c'est pour ça qu'on peut avoir beaucoup d'optimisme en fait, pour le futur. Quand on regarde les dernières études qui ont eu lieu en fait en France sur le pessimisme français, vous savez, il y a eu toute une vague en fait d'études qui ont été faites. On ressortait comme étant plus pessimistes que les Afghans et les Irakiens. Donc ça veut dire que déjà en fait c'est changé notre relation à la vie. Du coup, ça va transformer notre relation aux produits qu'on produit et qu'on consomme. Dans le cas du cradle to cradle, justement, c'est de se dire, moi en tant qu'industriel, quand je fabrique un produit, je le pense pour que finalement il soit réincarné à l'infini. Et qui servent toujours de nutriments, c'est-à-dire que la notion de déchet même disparaît.
Donnez-nous un exemple pour ceux qui nous écoutent de comprendre comment est-ce qu'on peut arriver à faire qu'un produit ne soit plus un déchet.
Tout simplement, on va le penser soit à travers un recyclage infini, enfin un métabolisme biologique ou technique. Par exemple, on parlait tout à l'heure de textile. On peut penser à un t-shirt dont les fils couture, les fils de tissage, les étiquettes, les colorants soient conçus de manière... Donc, qui soit non toxique et biodégradable. Donc, on ne parle pas uniquement d'avoir du coton bio. Ça, c'est qu'une toute petite partie, en fait, en réalité, de notre t-shirt. C'est de voir tous les composants de mon t-shirt et de faire, par exemple, mon t-shirt qui est issu de la terre. Je parle de coton et de peut-être de colorant, revient à la terre sous forme de nutriments. Donc, on imite en ça le modèle naturel. Dans la nature, en fait, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Il n'y a pas de déchets dans la nature. Vous regardez en fait une plante, vous regardez un cerisier.
Tout est engrais, en fait.
Et produit en profusion, absolument, tout est nutriment. Donc, on peut le faire de manière assez évidente. On peut le percevoir très facilement, en fait, quand il s'agit de Oui, oui, absolument. Stabilité,
avec les enfants, c'est très net. Hein. Voilà. Quand on leur dit, voyez, je le mets là, il devient un engrais, je le mets là, il devient un déchet.
Ouais. Mais ça demande qu'effectivement, on ait mis dans ce t-shirt-là, si on prend l'exemple du t-shirt, choisi des colorants qui ne soient pas toxiques, et il y en a beaucoup qui le sont. Mmh. D'accord. Qu'on ait choisi en fait des étiquettes ou des boutons qui soient effectivement biodégradables, et donc le fait que l'ensemble de ce t-shirt en fait, soit conçu pour être un nutriment, et donc là, en l'occurrence, biologique, puisqu'il vient nourrir le sol. Il y a un autre métabolisme, en fait, un autre cycle, qui est un cycle technique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aujourd'hui s'appuyer que sur des produits naturels. Si on, en tant qu'espèce humaine, on vivait qu'avec des produits issus de la nature, c'est-à-dire non issus de la chimie, de la pétrochimie, etc., on estime qu'à peu près, on ne pourrait pas satisfaire les besoins de plus de 500 millions de personnes. On est près de 7 milliards. Donc ça veut dire que les artefacts...
Bientôt 9.
Et bientôt 9 dans les années qui suivront. Donc ça veut dire qu'on est obligé... ça veut dire que les artefacts créés par nous, espèces humaines, en fait, on n'est pas forcément de les voir comme quelque chose forcément diabolique et néfaste. Il faut juste les penser comme étant non seulement non toxiques, et la chimie n'est pas forcément toxique, et qu'ils soient conçus dès le départ.
Tout est chimie dans la vie.
Tout est chimie au final, absolument.
Nous sommes chimie.
Nous sommes chimie, et dans la nature, vous allez trouver des choses qui sont parfaitement bonnes pour la santé, et parfaitement toxiques en fait pour la santé, voire radioactives.
Les gens confondent souvent la chimie et les substances de synthèse, hein, en fait.
C'est ça, tout est
les
molécules.
Ouais.
Tout est molécules au final.
Absolument.
Donc là, en l'occurrence, si je suis sur un métabolisme technique, si je suis sur des produits qui ne sont pas issus de la biosphère, mais dont les composants sont issus de la technosphère, d'accord ? Des métaux, de la chimie du pétrole, etc., et à ce moment-là, je vais les concevoir pour facilement les démonter et les faire suivre des cycles qui font que le produit après usage servira de matière première secondaire pour un autre produit ou pour le même produit.
Par exemple,
on a travaillé avec DIM à faire des collants indéfiniment recyclables.
Oh, c'est bon ça, mais les collants, c'est... ça m'intéresse.
C'est pour ça que j'en parle.
D'accord.
Indéfiniment recyclables.
Oui.
Par exemple,
ben, c'est-à-dire qu'on a choisi de changer le polyamide qui constituait le collant pour faire qu'après usage, le collant usagé soit retourné à l'industriel pour être retransformé en fait en fil de polyamide, en fil de nylon, à partir duquel on peut refabriquer du collant par un processus un peu technique qu'on appelle la dépolymérisation, c'est-à-dire que notre plastique, notre polymère, notre polyamide qui est un plastique, en fait, on revient en fait à la molécule de base telle qu'elle était issue du pétrole, sauf qu'elle provient du collant usagé. On a fait des différents changements en fait pour améliorer le rendu du collant quant à ses qualités et fonctionnelles et en termes de ses impacts. Donc on peut complètement, sans revenir en fait au pétrole jamais, refabriquer des collants avec le collant usagé.
C'est indéfini ?
Absolument.
C'est incroyable. Tous leurs collants sont faits comme ça ou seront faits comme ça?
Alors,
un jour ?
Ils ont une solution aujourd'hui. Ils sont en train de penser en fait à sa commercialisation. Là, on est dans le domaine de la stratégie de marque, de la stratégie globale d'entreprise. Mais en tout cas, ils ont sur des gammes de produits effectivement cette possibilité-là qui est aujourd'hui opérationnelle avec tout un tas de partenaires. Puisqu'un autre élément qui est important, c'est de voir en fait qu'il faut qu'on travaille tous ensemble. C'est-à-dire qu'en réalité, il est faux de penser qu'on n'est pas tous interconnectés. Moi, en tant qu'industriel, je dépends de mes fournisseurs, je dépends de mes parties prenantes, je dépends de mes clients. En l'occurrence, je dépends de mes clientes. Si elles ne me renvoient pas en fait, mes collants, je ne pourrais pas en fait, les recycler indéfiniment. Donc, on est en train de matérialiser une forme de communauté et donc qui partage les mêmes valeurs, donc le même niveau de conscience, la même perspective, qui va travailler ensemble, chacun à leur niveau, devenir responsable, acteur en fait, du futur, en faisant ce qu'ils doivent faire, chacun à leur niveau. Donc, les uns en fait, en produisant en éco-concevant des collants qui soient indéfiniment recyclables et non toxiques, les autres en les ramenant, etc. etc.
Est-ce que ça veut dire qu'on rejoint un peu ce dont parlait Emmanuel Pompton tout à l'heure, l'holocratie ou l'holacratie? Je ne sais d'ailleurs pas quel est le mot exact.
Ça, c'est différent.
On a cette intelligence collective qui...
Alors, ça, c'est différent. C'est-à-dire qu'effectivement, mais vous faites bien de le souligner, à partir du moment où on veut collaborer, il faut s'entendre. Et on sait que même dans les plus belles entreprises, souvent, en fait, on a un obstacle à bien s'entendre. C'est en général l'ego.
Oui.
D'accord ? C'est-à-dire nos peurs et nos ambitions personnelles. Donc, vous pouvez mettre autour de la table, et c'est ce qui s'est passé au sommet de Copenhague, en fait, où tout le monde était conscient des enjeux planétaires, où personne ne s'est mis d'accord parce que tout le monde avait des enjeux, en fait, et des ambitions différentes, personnelles, nationales. D'accord ? C'est comment, au sein d'une...
National
et personnel. Donc, l'holacratie, c'est un système de gouvernance qui permet, justement, avec l'intelligence collective, de pouvoir, justement, faire que, temporairement, on met notre ego dans la poche et qu'on est capable de collaborer, c'est-à-dire que non seulement on est capable de partager au mieux nos connaissances, notre expérience, mais aussi dans ce contexte, dans ce champ en fait, de conscience qu'on est en train de créer ensemble, où il n'y a pas d'ego, pas de séparation, on est capable d'exacerber la créativité, l'innovation et la capacité à coopérer. Et ça, chez Intégral Vision, on pense en fait que c'est le changement de paradigme majeur et qui est extrêmement exigeant parce qu'on est tous en fait, par définition, un peu égoïstes. C'est ça qu'il faut être capable de transcender pour créer un monde différent.
Donc en fait, la réponse, c'est vraiment l'économie humaine. Et donc la réponse à cette économie humaine, c'est vraiment le travail sur l'ego. Donc ça rejoint des grands courants de pensée divers et variés. On pense à Thomas dans son livre là, sur la communication non violente, etc. Rosenberg. Enfin, vous pouvez nous citer un peu justement pour informer les auditeurs. Comment est-ce qu'on peut faire cette bascule justement de l'ego? Parce que finalement, la base, elle est là. Hein. Jean-Marc Governatori le redisait. Enfin, on voit que ça finalement, ça transpire dans toutes nos émissions. On en revient toujours là. Et c'est rassurant, on en revient toujours à l'humain finalement. Hein.
Je pense qu'en fait... je pense que c'est un travail d'ordre spirituel qui doit être mené.
Moi, je proposais justement une petite pause pour méditer sur tout ce que vous venez de
nous
dire.
Méditons.
Petite pause musicale.
Alors,
on se retrouve dans quelques minutes sur le stand Féminin Bio en direct du Salon Planète Durable avec Mireille Lizot et Eric Allaudy. À tout de suite.
Tibétain, quand tu arrives en haut de la montagne, continue de grimper. Fréquence Terre, la radio nature.
Avec Fréquence Terre en direct du salon Planète Durable, on est en train de refaire le monde, en tout cas d'élever notre niveau de conscience avec Mireille Lizot du groupe Léa Nature et Eric Allaudy d'Intégral Vision. On était au cœur d'une discussion qu'on a eu envie de vous faire partager sur l'holacratie. Et Eric Allaudy était en train d'expliquer en aparté, mais on va vous en faire profiter. Donc, qu'est-ce que c'est que cette holacratie et les holons?
La démocratie, c'est le pouvoir au peuple. Démos, en grec, c'est le peuple. Holos, en grec, ça veut dire c'est quelque chose qui est à la fois un tout et une partie d'un tout. Et c'est une loi naturelle. Donc, holacratie, ça veut dire en fait le pouvoir au holon. Qu'est-ce que c'est un holon? Un exemple de holon, c'est par exemple si vous prenez un atome, c'est un tout et ça fait partie d'une molécule. Une molécule, c'est un tout et ça fait partie d'une cellule. Une cellule, c'est un tout, ça fait partie d'un être humain. Un être humain, c'est un tout, ça fait partie d'une entreprise, par exemple, ou d'un pays, ou d'une société. Donc ça veut dire arriver à trouver cet équilibre qui nous paraît en général impossible, où je suis à la fois pleinement individué, pleinement, en fait, leader, pleinement un individu, et en même temps, je suis en même temps un collectif, simultanément. Ça, on se rend compte, en fait, que ce n'est possible que quand, justement, on parlait d'ego tout à l'heure, on lâche notre ego. On accède, en fait, on arrête d'être auto-limité par notre propre ego qui nous dit non, tu n'es pas capable, ou alors la vie c'est un problème, rien n'est possible. C'est souvent ce que nous dit notre ego. Donc quand on lâche en fait toute cette relation négative à la vie, on accède en fait à notre potentiel, on accède en fait à notre capacité à nous dépasser. Donc ça magnifie notre individualité, ça magnifie en fait nos talents, ça magnifie en fait ce que nous sommes. Et en même temps, on n'est pas dans la séparation qu'on trouve aussi dans le monde de l'ego, qui dit « je suis meilleur, je suis moins bon, je suis supérieur, etc. » D'accord. Donc on n'est pas non plus séparé des autres. Donc on commence en fait à créer une forme d'entité, ce qu'on appelle un holon, d'accord, où en fait à la fois je me sens ce collectif et à la fois je suis pleinement moi-même en fait.
Mais ce que font finalement les animaux naturellement, quand on voit les tortues qui se retrouvent pour pondre chaque année au même endroit ou... les abeilles, les fourmis, enfin bref, de multiples exemples dans la nature. Finalement, pourquoi nous avons-nous été séparés de cela ?
Je pense qu'en fait, ce qui se passe avec les fourmis, par exemple, c'est qu'elles sont un collectif, mais elles ne sont pas autant individuées que nous, on peut l'être. Et c'est une bonne chose d'être un individu. C'est formidable, parce que justement, on parle souvent de diversité quand on parle d'écologie, mais la biodiversité, c'est d'abord nous. C'est d'abord en fait tous les talents que chacun d'entre nous on peut avoir, toute l'expérience et le passé que chacun d'entre nous on peut avoir. Donc on s'est grandement, au cours de l'évolution, depuis 14 milliards d'années, individué, jusqu'à même regarder par rapport en fait à des tribus qui peuvent exister en fait dans le monde. En fait, ils fonctionnent comme un collectif, ils ne fonctionnent pas comme des individus. Quand on dit en fait à des gens d'une tribu, qu'est-ce que tu feras quand tu seras grand, ils sont incapables de dire en fait, parce qu'ils ne sont pas des individus. Mais cette individuation, à travers cette émergence en fait de l'individu, est extrêmement positive. On est allé un petit peu trop loin. On est devenu un petit peu trop narcissique, si je puis dire. Donc maintenant, en fait, il faut travailler, et c'est pour ça que je parlais de spiritualité tout à l'heure, il faut travailler, en fait, à lâcher tous ces conditionnements, en fait, de peur et d'ambition personnelle pour magnifier cette individualité que l'on est et en même temps travailler ensemble. Parce que c'est ça la solution, finalement, au problème énorme et à la complexité énorme à laquelle on est confronté, c'est travailler ensemble au-delà de ce qui nous sépare.
Donc on revient sur le 21e siècle, sera-t-il spirituel ou religieux ou ne sera pas ? Enfin, je ne me souviens plus comment a été formulée cette fameuse question qui est un peu tombée aux oubliettes, mais alors, qui revient sous une autre forme. Dans cette quête de sens, de spiritualité très forte qu'on ressent et ce vide spirituel qu'on a finalement en Occident. Qui pour vous sont les nouveaux guides spirituels ? C'est amusant parce que hier, quand on répondait à cette question sur l'écologie, finalement, qui prend la relève ? Alors, effectivement, tout le monde cite Pierre Rabhi, mais Pierre Rabhi, il est aussi âgé. Et finalement, qui sont les nouveaux guides spirituels aujourd'hui ?
La raison pour laquelle on s'appelle Intégral Vision, justement, c'est qu'il y a une philosophie intégrale qui est en train d'émerger actuellement dans le monde. Qui est finalement, on peut dire, aujourd'hui, telles qu'on les connaît, les valeurs en fait les plus développées, qui disent en fait il faut aussi bien tenir compte de l'intérieur que de l'extérieur. C'est-à-dire que même quand on travaille avec les entreprises, on a une approche intégrale où on dit en fait on regarde vos produits qui est finalement votre extérieur collectif, on regarde votre culture qui est votre collectif intérieur, mais on regarde aussi en fait l'intérieur des individus et puis leur comportement individuel. Donc aujourd'hui, des gens qui sont les plus en pointe dans ce domaine-là, c'est des philosophes qui sont surtout américains. Il y a quelqu'un qui s'appelle Ken Wilber, il y a quelqu'un qui s'appelle Andrew Cohen. Il y a d'autres personnes en fait qui sont dans ces moments-là, Steve McIntosh, des gens comme ça. C'est très avant-gardiste, c'est très nouveau, c'est très minoritaire, c'est très embryonnaire, mais nous on croit vraiment qu'en fait que c'est vraiment la solution, c'est vraiment le véritable changement de paradigme dont on parlait en fait tout à l'heure.
Vous parliez de Charles Kloboukov tout à l'heure, qui est quand même très inspiré, on le sent, on le voit quand ça transparaît dans sa personne. Il a été aussi très inspiré par un modèle américain qui est Yvon Chouinard, je crois, oui. qui a lancé 1% pour la planète, et ça permet de refaire le lien avec effectivement Léa Nature. Vous pouvez nous en parler un peu plus à la fois de ce modèle d'Yvon Chouinard, fondateur de Patagonia.
Oui, c'est vrai, puisque Patagonia a été une entreprise modèle pour Léa Nature et en particulier précurseur, puisque c'est lui qui a créé le club 1% pour la planète, qui est un club d'entreprises qui reverse 1% de leur chiffre d'affaires à des associations environnementales. Et la grande originalité, c'était de fédérer le milieu économique, le monde des entreprises, pour les mobiliser également à à soutenir également l'environnement, l'écologie. Ça ne devait pas partir que des associations ou que des politiques, mais aussi des entreprises.
Donc, c'est plus d'un million cinq d'euros, je crois, qui ont été donnés dans ce cadre-là par les marques du groupe Léa Nature.
Alors, en trois ans, c'est plus d'un million d'euros, effectivement, donc qui concerne plus de 200 projets associatifs environnementaux qu'on a soutenus. C'est une somme. Et le gros intérêt qu'on a trouvé à adhérer à ce club, c'est que c'est l'entreprise qui choisit l'association, le projet à soutenir, qui le suit et qui reverse directement. Donc il n'y a pas de prélèvement autre. Donc on sait où on va l'argent et on sait à quoi il sert. Donc c'est ce qui nous a séduit dans cette adhésion au Club 1% pour la planète. C'est un engagement très fort pour une entreprise parce que c'est 1% du chiffre d'affaires.
Ouais, c'est ça.
C'est pas du bénéfice. Donc ça signifie que l'entreprise gagne ou pas de l'argent, elle s'engage à reverser. Donc c'est vraiment...
Combien d'adhérents en France déjà ?
101.
101.
101 entreprises.
Alors vous êtes dans un engagement aussi qui est tout aussi une démarche de pionnier, qui est le mouvement des colibris.
Oui.
Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots, puisque on a pas de représentant du mouvement colibri qu'on avait invité, mais vous en êtes un des membres de ce réseau Entreprises Colibris.
Alors à l'origine, nous avons accueilli Pierre Rabhi à La Rochelle, puisque nous organisons tous les ans une journée de l'environnement où on accueille un expert, un philosophe, un humaniste, un écologiste, pour parler d'un... Alors lui, c'était sur l'agroécologie. Et donc à la suite de cette rencontre avec Pierre Rabhi, il y a eu un très bel échange entre lui et Charles Kloboukoff. Et ensuite, il nous a parlé de ce mouvement Colibri qu'il a initié à la suite, au tout départ, c'était à la suite de sa première présentation au présidentiel de 2007. Et donc, c'était la suite de ce mouvement pour essayer de fédérer le plus grand nombre de gens possibles qui avaient envie de faire bouger les choses en faveur de l'écologie, en faveur de plus d'un nouveau paradigme, puisqu'en fait, ça, c'est les propres termes de Pierre Rabhi. Et donc on a été séduit aussi, envie de participer à ce mouvement, de fédérer et de faire bouger les choses dans le bon sens, dans le sens de l'écologie, dans le sens des valeurs humaines. On a adhéré dès la première heure au mouvement Colibri.
Un mouvement donc d'entrepreneurs engagés dans une démarche de développement humain et écologique, pour reprendre la présentation du mouvement pour la Terre et l'humanisme donc de Pierre Rabhi, et qui s'appuie, Colibri, pour ceux qui ne la connaissent encore pas, cette petite histoire, hein, c'est une légende amérindienne.
Très jolie.
Très jolie. Vous voulez nous la raconter ?
Allez-y, Mireille.
Alors, il y a eu un grand feu de forêt, c'est Pierre Rabhi hein, qui nous l'avait raconté, et, dans la forêt africaine. Et donc, tous les animaux fuient, évidemment, et courent. D'un seul coup, il y a un léopard qui fuit et qui voit un petit colibri qui revient en arrière et qui a une petite goutte d'eau dans son bec et qui va le poser dans le feu. Et le léopard lui dit « Mais t'es complètement fou, fuis comme tout le monde, qu'est-ce que tu fabriques ? Puis de toute façon, ça sert strictement à rien ce que tu fais. » Et en fait, il lui répond « Chacun fait sa part, chacun doit faire sa part. »
Et lui, il fait la sienne avec sa petite goutte.
Et lui, il fait la sienne avec sa petite goutte. Et donc, ça signifie que chacun, à notre niveau, on peut faire notre part.
Donc, la nature fait sa part avec 1% pour la planète, le mouvement des colibris, il y a encore plein de choses. On ne va pas pouvoir toutes les envisager, mais parmi toutes celles que je vais citer, vous pourrez nous donner un peu plus d'éléments sur ce que... Pour concrétiser, il y a la démarche ISO 26000 qui est en cours, alors que c'est une toute nouvelle norme internationale sur qu'est-ce que le développement durable. Il y a un engagement de réduction des émissions de CO2 de 10%. Il y a des tests alternatifs donc qui ne font pas appel aux animaux. Il y a un comité éthique, vous nous l'avez cité. Il y a du mécénat. Il y a des débats qui sont organisés au sein de l'entreprise contre les OGM, en faveur de la protection des abeilles. Les sujets ne manquent pas. Quel est celui que vous aimeriez illustrer d'exemple ?
Le dernier là que vous avez cité, c'est vrai que me tient à cœur parce qu'on a quand même un PDG qui a accepté de mettre son budget de communication dans une campagne en faveur d'une cause, la cause des abeilles, la disparition mondiale des abeilles. Et donc on a décidé d'offrir le budget com avec la marque Jardin Bio pour les abeilles. Et on a été très fiers de cette opération, puisqu'on a fait des grandes pages dans la presse quotidienne pour alerter l'opinion publique et en particulier les pouvoirs publics sur cette disparition drastique et essayer de faire prendre des mesures gouvernementales pour protéger les abeilles et donc la biodiversité. Et on a obtenu la Marianne d'or, remis en main propre par Jean-Louis Borloo à l'époque, au moment du Grenelle de l'environnement, pour cette campagne de sensibilisation en faveur des abeilles.
C'est Albert Einstein qui disait « si l'abeille disparaît, l'homme n'a que 4 années à vivre ».
Exactement. Et donc, en fait, cette campagne reprenait cette fameuse phrase d'Albert Einstein.
Alors, vous faites aussi un autre travail, moi, qui me fascine et qui est à la fois un travail de fourmi et de longue haleine, mais tellement nécessaire, qui est le travail que vous faites au niveau local. Vous êtes en train de complètement réintroduire des filières, réinventer des nouveaux métiers au niveau local, oui. Des métiers qui avaient disparu, des métiers également pour réintroduire finalement cette biodiversité, toutes ces semences. En région Poitou-Charentes, mais également partout en France. Alors ça, je trouve que c'est très intéressant de parler de cette filière. Et là, vous avez annoncé en plus quelque chose récemment à ce sujet.
Alors, en France, on a peu de surfaces agricoles bio. Donc on estime qu'on doit essayer de contribuer et aider les agriculteurs à la conversion bio et à la production bio. Donc on a... Pour la première fois, en fait, on a participé au financement d'un silo de céréales bio avec d'autres entreprises, donc avec un réseau de distributeurs, Biocoop, avec une huilerie, avec une coopérative d'agriculteurs bio, avec la Corab. Et donc, on a décidé de tous investir financièrement dans la construction d'un silo de céréales bio, à la fois pour pouvoir quitter un outil de travail sur leur lieu de travail, quoi, tout simplement, pour pouvoir stocker et collecter toutes ces céréales, pour pouvoir les transformer sur place. Et ensuite, l'idée, c'est aussi après que nous, on puisse utiliser ces céréales bio dans la fabrication de nos biscuits jardin bio.
Et là, on rejoint les cercles vertueux dont nous parlait Eric Alodi. On va reprendre encore à nouveau un peu d'envol pour cette vision intégrale. Vous dites, Eric Alodi, les entreprises doivent cesser de faire partie du problème et faire partie de la solution. Et pour cela, il est indispensable aujourd'hui d'agir sur les niveaux de conscience individuelle, on y revient, et collectif en alignant les 4 dimensions de l'entreprise. Vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure. Est-ce qu'on peut vous laisser nous en donner quelques précisions là-dessus ?
Oui, donc vous avez la dimension extérieure de ce collectif qu'est l'entreprise, c'est-à-dire ses produits, son image, sa communication. Donc, encore une fois, est-ce que mes produits vont être performants, innovants ? Est-ce qu'ils vont avoir un impact positif pour l'environnement et pour l'homme ou pas ? Donc ça, c'est donc on doit être évidemment, on doit avoir une entreprise en fait qui est une telle entreprise qui fabrique des produits innovants, performants et qui ont un impact positif sur l'environnement et sur les hommes. L'autre dimension en fait, c'est la dimension collective mais intérieure, donc culturelle de l'entreprise. Donc là, on parle vraiment d'une culture d'entreprise qui est pionnière et dont la vision en fait, c'est vraiment de créer un monde meilleur. Souvent, c'est très galvaudé, en fait. Ça me fait vraiment penser à l'histoire dont parlait Mireille par rapport au petit colibri. Mais c'est ça, le colibri dit, en fait, oui, je peux, en fait, améliorer les choses, même à mon petit niveau. Et dire, en fait, qu'on peut chacun, en tant qu'individu, en tant qu'entreprise, contribuer à un monde meilleur, c'est important, en fait, de l'assumer. C'est important, en fait, d'assumer cet idéal. Et donc, ça veut dire aussi un monde qui favorise, en fait, des valeurs de respect, d'intégrité, d'autonomie, de créativité. Par rapport aux des valeurs en fait souvent qui sont cultivées dans une culture d'entreprise, qui sont des valeurs en fait d'égoïsme, d'immobilisme et de conflit. Donc ça veut dire ça en fait, ça veut dire être aussi dans ce cadran-là intérieur collectif, de travailler en fait à devenir une culture en fait qui a un impact positif et qui en fait cultive ces valeurs de respect et d'intégrité. Et ça veut dire s'appuyer sur des hommes et des femmes qui partagent sincèrement les valeurs et la vision d'entreprise. Donc ça veut dire que là, on rentre par rapport à ces 4 dimensions. On était dans les dimensions collectives extérieures à travers les produits et intérieures à travers la culture. On rentre aussi ensuite au niveau de l'individu, c'est-à-dire au niveau des dimensions individuelles, intérieures et extérieures. Donc qu'est-ce que ça veut dire en fait, finalement, être équilibré aussi dans l'approche intégrale, on parle de cadran. Donc, dans le cadran en fait individuel, intérieur, ça veut dire qu'on prend en charge notre propre évolution de conscience. Ça veut dire qu'on cultive personnellement une posture de leader, d'authenticité et d'évolution de son propre niveau de conscience.
On en est responsable.
C'est-à-dire, quoi qu'il arrive, en fait, quelle que soit la situation du monde actuellement, quelles que soient les croche-pieds qu'on me fasse, d'accord ? Je peux toujours en fait agir, soit à partir de mon ego, soit à partir en fait d'un espace où je suis capable de faire partie de la solution et pas du problème. Et le dernier cadran, qui est le cadran individuel extérieur, finalement c'est mon comportement. Donc c'est la capacité de ces personnes-là à adopter en fait un comportement professionnel, puisque là on parle de l'entreprise, qui soit à la fois humble, fiable, inspirant et digne. Alors on parle d'un monde en fait qui est parfait là, en l'occurrence, ou d'une entreprise qui serait parfaite, mais c'est quelque chose qui doit devenir notre objectif. Et donc on peut y aller progressivement, on ne nous demande pas de devenir parfait du jour au lendemain, mais quand on commence à travailler sur soi, à prendre responsabilité de son propre ego, de ses propres conditionnements, parce qu'en réalité on est très conditionné, on est le produit d'une culture et d'une histoire. Donc si on regarde finalement le conditionnement français, l'ego culturel français, on peut voir celui des autres plutôt plus que le sien, mais il est là. Et donc c'est ça qu'on peut changer, en changeant ça en fait on peut vraiment, dans chacun de ces cadrans, on doit être équilibré de manière à pouvoir être une entreprise ou une société, une nation, une planète différente.
Parce que vous dites, mais moi m'évoque beaucoup le système éducatif quand même, parce qu'on revient à ça, hein, qui est la base. Nous on a besoin de réapprendre cela, mais on s'aperçoit que les enfants aujourd'hui qui sont dans nos écoles ne sont pas formés à cela. Moi, je suis une fervente militante de la pédagogie montessorienne ou Steiner, Freinet, enfin, il y en a bien d'autres. C'est la base. Qu'en pensez-vous ?
Moi, je suis d'accord. Je pense que tout part d'éducation, mais pas uniquement à l'école, aussi chez soi, en tant que parent. Et est-ce qu'aujourd'hui, on élève nos enfants en faisant des petits... des futurs adultes très narcissiques et avec des valeurs, en fait, très matérielles et mondaines ? Ou est-ce qu'on leur inculque, en fait, finalement, les valeurs du sens ? Quelle relation à la vie, en fait, on leur inculque aujourd'hui ? Est-ce que nous-mêmes, on a une relation à la vie tellement positive que c'est ça qu'on va leur communiquer ? Ou est-ce qu'au contraire, on va leur passer notre déprime et souvent notre cynisme, qui est présent très souvent en nous, par construction, mais par rapport auquel, en fait, qu'on peut lâcher ? C'est ça, en fait, la beauté de la chose, c'est qu'on a toujours cette capacité, en fait, à lâcher ces conditionnements pour passer... une relation à la vie qui soit positive à nos enfants, et ensuite les éduquer sur le sens, les éduquer sur la responsabilité, sur des valeurs d'intégrité, d'authenticité, des choses qui paraissent complètement surannées, mais dont on a beaucoup besoin en fait pour créer un monde différent.
Et les parents ont un rôle très important, certes. En même temps, ils sont 8 heures par jour pendant 20 ans de leur vie dans un système en France qui est très compétitif, très élitiste. Mmh. Et quand on a un discours très pacifiste à la maison et que l'enfant se retrouve dans l'école dans un système de compétition, il peut être aussi marginalisé par rapport au système... familial, vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est assez difficile d'être dans cette dichotomie finalement de société, de proposition.
Je pense en fait que exprimer une forme d'intégrité, donc des valeurs de courage, ça ne veut pas dire être faible. Ça ne veut pas dire être faible, ça veut dire au contraire prendre responsabilité en fait et éventuellement s'opposer. Justement, on est plus libre de s'opposer à des injustices. On parlait de Pierre Rabhi, il parle de l'insurrection des consciences. Donc on est plus libre en fait de s'insurger en fait. Et il y a encore eu ce livre récemment en fait.
Indignez-vous,
qui a eu tellement de succès. Ça veut dire qu'en réalité, on a finalement ce besoin de vivre des valeurs plus hautes, en fait.
Il y a des entreprises comme Léa Nature qui prouvent quand même que c'est possible.
Absolument.
Si vous n'utilisez pas les termes d'holacratie. Vous avez un certain nombre de valeurs, y compris dans le fondateur et dans les salariés, qui s'intègrent, qui se vivent concrètement chez toutes ces parties prenantes. Quelques exemples, parce qu'il y a un travail... déjà en interne, au niveau des salariés, c'est vrai que le rapport avec vos salariés dans l'entreprise de la nature, alors tout le monde ne peut pas venir travailler chez vous, mais c'est intéressant de savoir comment ça se passe. Il y a du management participatif, il y a la recherche d'un équilibre vie professionnelle, vie privée.
Il y a des journées de l'environnement donc, qui sont organisées. Et tout récemment, donc, on a très peu de turnover, donc les gens se plaisent, puisqu'ils restent.
Enfin, en même temps, La Rochelle, c'est sympathique aussi.
Oui, aussi, le cadre de vie, il fait beau pour beaucoup. On a organisé, là, il n'y a pas très longtemps, des repas entre les anciens, ceux qui avaient déjà plus de 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise. Et au cours du repas, on leur fait piocher une question pour les faire réagir. Et une des questions qu'ils ont piochées était « Qu'est-ce qui vous fait rester chez Léa Nature ?» Et ben, parmi les réponses, il y en a eu une, ça a été participer à une journée de l'environnement, Léa Nature, et aller écouter un conférencier de renom. On ne le ferait jamais en dehors de l'entreprise, on ne le ferait jamais de nous-mêmes. Et ben, on apprend plein de choses, c'est super intéressant. Et donc, du coup, on a trouvé ça vraiment encourageant. On s'est dit « Bon, ben, c'est utile, on le fait pour les salariés, on le fait aussi pour le public Rochelet, puisque c'est ouvert au public. » Et là, on a reçu tout récemment Jean-Marie Pelt à La Rochelle. Et donc là, vous parliez aussi là, de l'éducation des enfants. Et Jean-Marie Pelt avait terminé sa conférence en disant qu'il y a actuellement un fort engouement pour toutes les nouvelles technologies. Aujourd'hui, les enfants, ils sont tous à fond
connectés.
Et il dit, c'est pas ça qui va faire évoluer l'humanité. Il dit, l'humanité, ça va être, elle pourra évoluer qu'avec, justement, la spiritualité.
C'est un grand spirituel, Jean-Marie Pelt, hein. Très engagé. Oui. Ouais.
Alors, il y a les salariés, il y a aussi les fournisseurs, quand même, parce que souvent, là où le problème se pose dans le monde professionnel, y compris et notamment de la distribution de produits alimentaires en grande surface, de surcroît, il y a les rapports avec les fournisseurs. Or, Léa Nature applique, ou essaie tout du moins, d'appliquer là aussi ses valeurs dans le sourcing de l'innovation, mais aussi dans des partenariats avec des coopératives et des petits fournisseurs un peu partout dans le monde.
Oui, alors on travaille avec environ une trentaine de coopératives à la fois bio et équitables, parce que pour nous, notre premier critère d'équitabilité, c'est d'abord avant tout que ce soit bio pour le petit producteur, pour la santé aussi du petit producteur et de la terre. C'est pas toujours facile. On accompagne des fois des coopératives équitables à la conversion en bio et à la certification EcoCert. On travaille aujourd'hui énormément à relocaliser en France nos approvisionnements bio, c'est-à-dire qu'on fait tout un travail de recenser toutes les matières premières qui poussent en France et de pouvoir trouver des producteurs.
Relocaliser. Et une dernière chose, donc dans les parties prenantes, il y a quand même les clients qui ne sont pas que des consommateurs, comme le disait Emmanuel Pometan, qui a cité Eric Alodi, mais qui sont avant tout des citoyens. Ces citoyens-là, Léa Nature leur distribue une information, travaille sur la transparence, essaie d'élaborer de l'interactivité avec elle, lui donne des signes, donc des labels. Vous avez parlé d'EcoCert, Max Avelar pour le commerce équitable, One Voice qu'on connaît moins, Cosme Bio.
AB,
bien sûr.
Et puis 1% pour la planète.
Vis-à-vis des clients aussi, 1%
oui,
pour la planète.
Également. C'est sur tous nos packs, nos marques bio qui cotisent.
Quels sont les retours de vos clients par rapport à tous ces labels? Quels sont ceux auxquels ils sont le plus attentifs, sensibles?
C'est aujourd'hui toujours le label AB.
D'accord.
C'est le premier.
Vous avez fait de grandes avancées également en cosmétique bio, puisque c'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez des gammes qui sont pratiquement 100% certifiées, Mireille.
Ah oui, tous les produits cosmétiques bio que l'on développe aujourd'hui sont obligatoirement bio. Aujourd'hui, 85% de nos cosmétiques sont fabriqués chez nous, sont origine France, fabriqués en France. Au global, 2 produits sur 3 sont fabriqués aussi en France. Et donc nos cosmétiques sont... Tous les produits cosmétiques naturels évoluent vers les cosmétiques bio.
J'en profite juste pour... on parle de cosmétiques bio. On a un joli partenariat avec le groupe Léa Nature sur la marque Sobioéthique. Sur la Miss Bio.com, vous savez qu'en France, il y a une Miss Bio depuis 2 ans. Et cette année, on a organisé avec Sobioéthique à nouveau l'élection de la Miss Bio, qui sont en fait des jeunes pousses qui portent un projet d'avenir engagé, solidaire, green, bio, écolo, qui sont plutôt des jeunes femmes aux alentours de 30-35 ans et qui ont envie de faire découvrir ce projet. Donc effectivement, la marque Sobioéthique avec Féminin Bio est sponsor et porte ce projet. Donc j'invite aussi les auditeurs à se connecter sur www.lamisbio.com pour aller voter pour effectivement leur candidate favorite, sachant que le prix n'est pas un prix de beauté, elles ne vont pas défiler en maillot de bain. C'est vraiment un prix d'engagement. Et en fait, le don qu'elles vont recevoir de la part du groupe Léa Nature, du 1% pour la planète, elles pourront le reverser à une association environnementale de leur choix pour les 3 lauréates. Voilà, donc c'est une initiation. Voilà aussi à quoi sert le financement concret du 1% pour la planète.
Oui, ça nous a beaucoup plu de participer à la Miss Bio, puisque justement, on incite aussi des blogueuses, des femmes, l'année dernière même des actrices, à reverser également pour la planète, donc via le 1% auquel adhère Sobioéthique.
Alors si vous voulez en savoir plus, parce que malheureusement l'heure tourne sur tout ce que fait Léa Nature dans son engagement d'entreprise citoyenne pour la planète, vous allez sur le site leanature.com et je vais vous demander pour tout ce que nous a présenté Eric Alodi, je vais vous demander votre site internet que je ne connais pas, mais ça doit être intégralvision.com, quelque chose comme ça.
.fr,
voilà, intégralvision.fr. Un petit mot de conclusion, un message à nos auditeurs, phrase
Eric Alodi.
Moi j'avais bien aimé quand j'avais vu le film Home de Yann Arthus Bertrand, il disait nous avons créé le monde à notre image. Donc pour conclure, je reprendrai la phrase de Gandhi qui dit devenons le changement que nous souhaitons voir dans le monde.
Merci.
très bien, très très belle conclusion, qui était aussi le livre que nous avons chroniqué hier, qui s'appelle « Qu'est-ce que je peux faire pour un monde meilleur ?» et qui reprenait effectivement cette phrase de Gandhi. Merci beaucoup.
Merci Mireille Lizot, merci Eric Alodi, merci Anne Guéquière.